vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire une balade à la découverte des vestiges de la dernière guerre. Nous allons voir s'il reste des bâtiments, des infrastructures de ces événements-là, qui sont les témoins de la guerre 39-45. Ah, bref, c'est pas 39, hein, c'est le 19 juin 1940 au 18 septembre 1944. C'est cette période de l'occupation allemande qui s'est terminée par un siège très 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 meurtrier. Du 7 août 1944 au 18 septembre 1944. Alors on va vous parler de tout ça.
Très bien, et ben avec donc Jacques Carvévent et Michel Baron, voilà. Et la classe de 3e E ici, du Collège Saint-Paul.
Ouais, merci Manu. Bon, alors toute la journée, c'est-à-dire jour et nuit. Vous voyez, c'est imposant. C'est un bunker. Vous savez ce que c'est un bunker ? C'est le terme allemand, hein. C'est un abri. Oui, on appelle ça abri, comment, base sous-marine. Moi, je préfère le terme de base des sous-marins. C'est donc un abri dans lequel il y a 15 alvéoles qui sont donc longitudinales dans ce sens-là, le sens sud-nord. Et les 15 alvéoles sont dans le sens ouest, où vous avez la sortie là, et est, où il y a une autre sortie de l'autre bord. 10 de ces alvéoles étaient asséchables, c'est-à-dire il y avait des portes, on pouvait pomper l'eau, et le sous-marin était en cale sèche et pouvait être réparé. Les autres, les 5 autres alvéoles de ce bord-ci, les plus longues, eux, étaient libres d'accès sans porte. Et, naturellement, pour protéger leur sous-marin de toute incursion des bombardiers alliés, il fallait le protéger d'une épaisseur de voûte, vous la voyez à peu près là, de 6 mètres d'épaisseur de béton. C'est énorme, c'est une base, je crois qu'il y a 500 000 mètres cubes de béton. On dit souvent 500 000 mètres cubes de béton fait en 500 jours, bon, c'est pour le jeu de mots. Mais c'est à peu près ça. Ça a été construit de janvier 1940, donc janvier 41, à donc la mi-42. Mais déjà, en fin 41, certaines alvéoles étaient prêtes à recevoir les U-boats. Et il y avait en haut, on le voit un petit peu, sur le côté, une structure dite Frangrove qui servait à empêcher les bombes perforantes de percer l'épaisseur du blindage afin que ces bombes puissent exploser avant d'attaquer le toit principal, et ces bombes exploser dans un espace de vide. Ça a été construit quelques années plus tard, c'est-à-dire dans les années 43, je crois. Hein. Voilà. Et là, vous voyez aussi, il y avait des casemates, vous voyez, une meurtrière là. Et en haut, là, c'est naturellement, il n'y en a plus, mais sur la hauteur, il y avait de l'artillerie. Et il y avait surtout aussi des radars, au moins un, et de l'artillerie pour protéger cette base énorme. Alors là, il y a des bases comparables, hein, naturellement. Hein, celle-ci, c'est celle de Brest, mais il y a une à Lorient, à la Rochelle, Saint-Nazaire et à Bordeaux. Voilà. Donc vous voyez, c'est imposant. Et là, où vous voyez qu'ils ont mis un espèce de produit brillant, là une bombe est tombée. Là. Et voilà, donc cette base-là a été le dernier refuge qui s'est rendu le 18 septembre 1944.
D'accord. Et la plupart des gens qui étaient ici sur Brest, il y avait beaucoup de Hollandais.
Ah oui.
Et eux, ils étaient volontaires. Ils étaient payés très cher. Donc des Hollandais, des Belges, des gens de leur pays. De globalement, le paysage restait le même.
Les
abris que vous avez là dessous, là, ça c'est ancien, c'est ouais. Français. Ça n'a pas bougé. Et les trucs que je vous disais où ils faisaient leur béton, là, ouais. Ils amenaient le sable, ils avaient construit une route à mi-flanc de. Vous voyez, on voit un peu derrière le poteau là-bas. On voit, ouais. Il y a un petit replat. Donc oui, les camions qui arrivaient de la gare de Brest, ils arrivaient là. Donc ils entraient près de l'entrée de l'école navale. Ouais, ouais. Ils passaient là au-dessus, ils venaient se vider dans ce truc-là. Et de là, vous aviez des petits trains de Coville, on va voir les rails en bas, qui emmenaient.
Bon, vous voyez que d'ici, on a quand même une vue panoramique. Sur une partie de la rade, de Brest est immense, hein, 16 000 km². Et puis une entrée vraiment très réduite à l'ouest, qu'on appelle le Boulet. par analogie avec un goulot.
On peut y aller.
Bon. Alors, ici, c'est vraiment très intéressant parce que les cuves à mazout, je vous ai dit, sont sur ce plateau-là qui culmine la grève des quatre pompes et la grève de la Maison Blanche. Et quand je dis grève de la Maison Blanche, je devais dire village. Il y avait là un petit village. Je ne connais pas le nombre d'habitants, mais il y avait plusieurs maisons. Il y avait un bistrot, il y a toujours des bistrots d'ailleurs. Et quand les cuves ont flambé, saboté, le mazout s'est répandu comme de la lave, enflammé, et s'est descendu le long de ces rochers-là. Et ça a enflammé tout le village de la Maison Blanche, brûlant toutes les maisons et causant naturellement quelques victimes. Celles qui n'avaient pas osé ou voulu partir. Et depuis, ce village n'a jamais été reconstruit. C'est aujourd'hui un port de petits pêcheurs. Vous allez voir les petites cabanes, mais il y avait là auparavant un village. Et pourquoi ce village économiquement avait de la valeur ? Oh, non plus en 1940, hein, mais si on l'appelle la Maison Blanche, c'est qu'il y avait dans le creux, là, et on voyait encore les vestiges d'un ou de plusieurs fours à chaux. La chaux étant quoi ? Le substitut au ciment. Enfin, c'est le liant. Et pour faire les fameux forts du Portzig, de Montbarré et d'ailleurs, il fallait cette chaux-là. Alors, la chaux, c'est la chaux vive et la chaux éteinte. La chaux liquide, c'est servant à badigeonner les murs. Et comme on badigeonne les murs à la chaux, et les pignons avec, les maisons qui sont grises deviennent blanches. Tiens, Maison Blanche, allons-y. Vous avez compris pourquoi Maison Blanche maintenant?